L'Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec Nicole Niesoto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous commencerons par nous intéresser au Front National. La victoire inattendue de François Fillon à la primaire de la droite et du centre a posé au Front National la question de sa stratégie électorale. Après avoir qualifié les propositions de l'ancien Premier ministre, je cite, de « pire programme européiste » et de « pire programme de casse sociale qui ait jamais existé », Marine Le Pen a dénoncé sa soumission, je cite encore, aux exigences ultralibérales de l'Union européenne. Elle s'emploie désormais à mettre en avant une opposition tranchée entre leur projet, et Florian Philippot a déclaré avoir hâte d'entrer dans un débat clivant. Le vice-président du Front National, qui défend une ligne souverainiste et sociale, entend attaquer François Fillon sur les questions économiques et se poser en défenseur du socle de protection sociale. Sur le terrain des valeurs, la stratégie du Front National paraît plus incertaine. Sur cette question, Marion Maréchal-Le Pen s'est montrée la plus critique envers François Fillon, l'accusant d'être un faux dur, mais la ligne qu'elle défend fait l'objet de désaccords au sein du parti, parti dont l'organisation valorise pourtant la cohérence et la discipline autour du chef. Alors que la position officielle du Front National, différente de celle de 2012, est de ne plus remettre en cause l'interruption volontaire de grossesse, Marion Maréchal-Le Pen a déclaré au quotidien Présent qu'elle souhaite revenir sur le remboursement intégral et illimité de l'avortement, car les femmes sont des êtres responsables qui doivent être traités comme tels. Fin de citation. Plusieurs personnalités du parti, ainsi que des militants, lui ont apporté leur soutien. Les désaccords et les querelles au sommet du parti portent également sur la sortie de l'euro, la politique pénale et le rétablissement de la peine de mort, le contrôle de l'immigration ou l'abrogation du mariage pour tous. Ces questions agitent aussi la base sans que la position de Marine Le Pen paraisse sérieusement affaiblie. Début novembre, le parti souverainiste Ciel, Souveraineté, Identité et Liberté, a rompu son alliance avec le Front National au sein du Rassemblement Bleu Marine, dont il était l'une des composantes les plus à droite, condamnant la volonté hégémonique de Florian Philippot et le discours aseptisé du parti sur les questions d'identité et d'immigration. L'entourage de Marine Le Pen a déclaré se réjouir de ce départ. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, c'est quelque chose de très intéressant de voir qu'à peine la primaire de droite est achevée et la primaire de gauche engagée dans des conditions assez incertaines, reconnaissons-le, ça tangue beaucoup au Front National. Alors, le clivage est ancien. L'opposition entre Marion Maréchal-Le Pen et Florian Philippot est une donnée structurante du débat à l'intérieur du Front National. Et il se résume de la façon suivante. Marion Maréchal estime stratégiquement qu'il faut s'appuyer sur l'un des deux camps, essayer de le rompre, en l'occurrence le camp de droite, pour faire turbuler le système et bousculer le système. Elle a pour elle d'ailleurs l'expérience historique. Je rappelle que Hitler est arrivé au pouvoir avec une alliance avec la droite profonde et que même Mussolini est arrivé à Rome après avoir passé pas mal d'accords avec Giolitti, avec le transformisme des accords municipaux. L'autre tendance, Florian Philippot et Marine Le Pen disent non, il faut attaquer frontalement et la droite et la gauche et faire turbuler le système dans son ensemble. Et là, il y a un petit problème en stratégie. Il vaut effectivement plutôt concentrer ses forces sur un adversaire que d'attaquer de tous côtés. Deuxièmement, idéologiquement, Marion Maréchal dit des choses qui sont assez justes. Il faut que le Front National ne se coupe pas des grandes colères de droite. Les grandes colères de droite sont d'abord des colères xénophobes, c'est tout son héritage sociologique à elle du Sud, l'inquiétude sur la proximité maghrébine, etc. Qu'il faut les grandes colères de droite, c'est aussi la manif pour tous, c'est une réaction assez vive contre un certain nombre de transformations de la société, et l'héritage de droite, c'est aussi la protection des petits entrepreneurs, les artisans, les commerçants, tout, des boutiquiers, tout un public traditionnellement acquis à la droite et à la droite de droite, et qui là sont très inquiets d'une dérive du SMIC, d'une augmentation des coûts sociaux, etc. Donc elle dit, il faut coller à cela, et il faut donc mettre en bémol ce qui fait peur, les augmentations de protection sociale qui inquiètent les entrepreneurs, la mise en cause de l'euro qui inquiète les épargnants, une sensibilité aux grands thèmes sociétaux qui inquiète les catholiques traditionnels. Il est évident que cette stratégie, qui était à mon avis très bonne, est sévèrement mise en cause par la victoire de François Fillon. D'ailleurs, il paraît que le FN, j'ai pas vérifié, mais il paraît que le Front National est très inquiet, notamment des résultats qui ont été réalisés par Fillon à Béziers, par exemple, qui est une des villes phares de la conquête du Front National. Et Fillon, on voit bien qu'il récupère assez profondément ces héritages-là. Donc, il y a une fermeture. Deuxième stratégie, la stratégie de Philippot, qui vient lui-même de la gauche chevènementiste, qui dit le grand combat idéologique, c'est le souverainisme, les grandes conquêtes sociales, c'est la fin de la classe ouvrière, le salariat qui est en état de décomposition, de déshérence, de désarroi total, et c'est une gauche qu'il faut reprendre. Et là, nous, Front National, nous sommes en mesure de lui parler par les thèmes de la laïcité que nous opposons à l'islamisme et qui rejoignent les thèmes de la laïcité de gauche traditionnelle. Nous sommes en mesure de lui répondre par un anti-libéralisme, je dirais pas un national-socialisme, mais un socialisme national, si je puis dire, un anti-libéralisme, la défense du système social, l'augmentation du niveau de vie, bref, tout un ensemble de choses que ni la droite ni la gauche, tout un ensemble d'attentes que ni la gauche ni la droite ne prennent en compte, puisque nous voyons bien que, par exemple, les théoriciens de la gauche actuelle disent qu'il faut plutôt s'occuper des classes moyennes, et on voit bien que la classe ouvrière a massivement déserté non seulement la gauche socialiste, mais même Jean-Luc Mélenchon, qui trouve sa fortune électorale plutôt dans les classes moyennes inférieures. Je dis inférieures, parce que des fois il y a des gens qui m'écrivent en disant c'est pas bien de parler de petits profs, etc. C'est simplement une situation dans l'échelle de revenus ou dans l'échelle des pouvoirs que je veux. Et évidemment, il n'y a pas de stigmatisation, mais cette situation est alors là. Que se passe-t-il après l'élection de Fillon, après la sélection de Fillon et avec la situation de gauche? La sélection de Fillon ferme donc assez profondément la porte à la stratégie de Marion Maréchal, mais elle n'ouvre pas nécessairement la porte à la stratégie de Marine Le Pen. Parce que ça dépend de savoir si l'espace de gauche, c'est-à-dire l'espace compris entre Mélenchon et Fillon, si cet espace réussira à se structurer. Et là, effectivement, je suis de ceux qui pensent que Macron aurait été en mesure de le structurer à condition qu'il se saisisse de ce que le général de Gaulle appelait le tronçon du glaive que représente le Parti socialiste. Mais il a décidé de faire autrement. On verra ce que ça donne. Le tronçon du glaive. J'ai des gens qui disent que Macron ne devait pas être en primaire parce qu'il se serait compromis. C'est un peu comme les gens qui disent que de Gaulle se compromettrait avec la 4e République en devenant président du Conseil de la 4e République, ce qu'il est devenu. Et c'est en faisant cette transition qu'il est arrivé à la 5e République. Bon, là, en tout cas, il y a la chance, effectivement, c'est que la gauche offre un visage totalement fragmenté, avec une gauche socialiste en décomposition, une gauche extrémiste qui ne avec Mélenchon qui ne se branche pas sur la classe ouvrière et un macronisme qui touche d'autres populations, des populations qui ne sont pas intéressées par le Front National. Je suis de ceux qui pensent que malgré tout, la stratégie de Florian Philippot est extrêmement hasardeuse et que les anticorps, les forces de résistance de la gauche par rapport aux séductions du Front National, reste intact. Je pense que le Front National est entré dans une situation difficile, et d'autant plus difficile que l'exemple du Brexit montre que c'est vraiment une impasse que de tenter de sortir de l'Union Européenne quand on n'a pas un projet clair en tête, ce que évidemment personne n'a à l'heure présente, ni en Angleterre, ni en France.
Michaël Avigan.
Oui, j'aimerais bien continuer sur cette question, justement. On avait l'impression que après le Brexit, après la victoire de Trump, que le prochain mauvais événement allait être l'élection de Marine Le Pen en France. C'est en tous les cas la tendance qui s'est dessinée et Marine Le Pen a essayé de renforcer cette perception en saluant très chaleureusement la victoire de Trump, comme elle avait auparavant s'était félicitée du vote du Brexit. Et là, on voit, au-delà de cette scission qui est de plus en plus évidente entre l'aile maréchaliste et les gens de Philippot, on voit que c'est déjà complètement retombé. Alors tout d'abord, retombé parce que le Brexit, on voit déjà que ce sera très long, très compliqué. Donc pour les Français qui étaient tentés par une perspective de sortie de l'euro rapide, net, pour retrouver vite quelque chose, enfin toutes ces promesses bizarres, mais qui étaient prises au sérieux, ils voient que si on s'engage sur cette voie, ce sera très très long et très compliqué, sans des effets bénéfiques immédiats. Et Trump, je parie qu'au mois de mai, on va être déjà dans la désillusion la plus totale. Les premières nominations montrent déjà que le candidat contre le système, il se sert énormément du système des banquiers de Goldman Sachs comme et donc la deuxième désillusion. Et il y a aussi une désillusion propre au scrutin en France. Quel était le meilleur score que le Front National sous Marine Le Pen a jamais eu? C'était au régional en décembre dernier, 6,8 millions de voix. Pour gagner une élection présidentielle, il faut à peu près, quand la participation et elle est d'habitude forte et tout laisse à croire qu'elle sera à nouveau forte, il faut à peu près 18 millions de voix. Alors, où sont les réserves de voix du Front National? Pour l'instant, on les voit très mal. Alors, effectivement, il y a cette tentative de les chercher à gauche. Il y a, moi, à chaque fois, je sursaute quand je vois les communiqués maintenant du Front National. Il y a maintenant la rose qui est... elle est allongée. Hein. Elle est allongée, mais c'est quand même la symbolique. On se rappelle à chaque fois, bien sûr, la rose du Parti socialiste. Et d'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen a cru bon de dire qu'elle n'était pas associée au choix de ce symbole pour la campagne. Ça en dit long sur justement. Et je crois qu'il y a beaucoup de cadres du Front National qui sont pas non plus d'accord de se servir d'un symbole de la gauche française pour faire campagne électorale. Alors, ce qui est fascinant, c'est que cette campagne qui s'annonce du coup assez à gauche du Front National, elle ne respecte pas tout ce qu'on sait sur l'électorat potentiel du Front National, parce que toutes les études montrent que ce sont quand même majoritairement des gens qui étaient de droite. Et donc, ça paraît très hasardeux d'essayer de trouver des mélenchonistes ou des gens déçus du Parti socialiste pour voter au deuxième tour pour le Front National. On l'a vu d'ailleurs au régional. Moi, je prends toujours comme exemple ce qui s'est passé en PACA. Christian Estrosi, c'est quand même pas un homme politique qui, de par tout ce qu'il a dit, plaît aux électeurs de gauche. Et pourtant, il a été élu parce qu'on ne voulait pas d'une victoire du Front National. Donc, je pense que la triptyque Brexit, Trump, Le Pen ne marchera pas, heureusement d'ailleurs.
Nicole Nisotto.
Oui, alors, je vais être d'accord aussi. Peut-être que c'est une émission sur laquelle au cours de laquelle on sera tous d'accord.
C'est pas grave.
Hein. Je crois qu'effectivement, le Front National traverse une mauvaise passe pour... à cause évidemment de la victoire de François Fillon, mais j'y reviendrai, mais aussi à cause du contexte international. D'une part, en Autriche, le Front National a perdu, enfin, l'équivalent du Front National a perdu, ce qui prouve quand même qu'il y a une espèce de plafond de verre pour les partis d'extrême droite quand ils doivent arriver aux plus hautes fonctions. Deuxièmement, les difficultés du Brexit, effectivement, sont plutôt dissuasifs, en tout cas pour le lecteur Front National moyen. Et puis, le retrait de François Hollande prive Madame Le Pen de son argument de campagne traditionnel, qui était... sortir les sortants.
Sarkozy.
Or là, tous les sortants sont sortis et il ne reste que la famille de Le Pen, d'ailleurs, comme membre de la vieille famille politique française des années 90. Donc tout ça, déjà, n'est pas un très bon contexte, mais en plus, la victoire de François Fillon déstabilise fortement le Front National. Alors, sur trois domaines, sur le conservatisme des valeurs, puisque François Fillon reprend une bonne partie des thèmes du Front National, la famille, le travail, l'ordre, l'effort, l'autorité, les valeurs françaises. D'ailleurs, je remarque qu'il ne parle pas de valeurs républicaines, il parle des valeurs françaises. Deuxièmement, sur la politique étrangère et la diplomatie, le Front National n'est plus tout seul à occuper le créneau pro-Poutine ou pro-russe. François Fillon s'est recadré un peu sur ce créneau-là. Là aussi, je fais une parenthèse. François Fillon et Marine Le Pen sont critiques de l'allégeance atlantique et relativement pro-russe. Au moment où M. Trump devient lui-même pro-russe, donc on pourrait avoir finalement deux candidats à la présidence de la République, Marine Le Pen et François Fillon, qui soient à la fois pro-russe et pro-américain par le fait du changement d'alliance, ce qui est assez savoureux. Et sur l'Europe, enfin, troisième thème, alors François Fillon est pro-européen, bien sûr, mais d'une Europe des nations. Il a voté non à Maastricht en 93, et là aussi, il vole un peu sur l'électorat de Marine Le Pen. Et donc là, ça fait sur un certain nombre de thèmes, le Front National se trouve un peu privé de ses réserves de voix. Mais surtout, je crois que la grande difficulté pour le Front National, c'est que la victoire de François Fillon divise, en tout cas oblige Marine Le Pen à montrer au grand jour les divisions qui traversent le parti entre les deux tendances dont a très bien parlé Jean-Louis, et que c'est quand même un peu déstabilisant pour les électeurs de voir que le Front National n'est pas uni derrière son chef. Et deuxièmement, la victoire de Fillon oblige Marine Le Pen à aller encore plus loin sur les extrêmes, autrement dit, à mettre en cause toute la stratégie de dédiabolisation qu'elle avait construite patiemment sur les 10 dernières années. Elle est obligée d'aller encore plus à l'extrême droite qu'elle ne le souhaiterait. Par exemple, ses propos sur le fait qu'il ne faut pas scolariser automatiquement les enfants d'immigrés, c'est une faute par rapport à sa stratégie de dédiabolisation.
C'est idiot, en plus, c'est
illégal. Mais en tout cas, je crois que là, la division est de nouveau la diabolisation du Front National éclate au grand jour et que c'est une très mauvaise nouvelle pour elle. Cela dit, elle a quand même deux raisons de satisfaction dans l'évolution des choses et dans la victoire de François Fillon. Il y a deux éléments qui peuvent conforter son assise électorale. Premièrement, le fait que si elle est au deuxième tour face à François Fillon, le réflexe républicain sera plus dur, en particulier pour l'électorat de gauche et du centre, que si ça avait été Juppé, par exemple. Et donc, les électeurs de gauche qui se sont déjà, entre guillemets, fait avoir une fois en 2002, peut-être n'iront pas aller jusqu'au réflexe républicain en cas de deuxième tour. Donc, elle peut espérer que l'abstention au deuxième tour lui sera favorable. Ça, je crois que c'est plus important avec Fillon qu'avec d'autres candidats. Et deuxièmement, le programme électoral de Fillon lui ouvre une un espèce de boulevard pour reconquérir tout l'électorat populaire que le programme de François Fillon ignore complètement, et non seulement ignore complètement, mais maltraite très souvent le programme économique ultralibéral de François Fillon, maltraite les classes moyennes, les fonctionnaires, etc. Et donc sur ces deux points, malgré tout, Madame Le Pen peut se réjouir parce qu'elle a plus de chances au deuxième tour, si elle est au deuxième tour, contre François Fillon que contre Juppé. Et deuxièmement, elle a tout l'électorat populaire à reconquérir.
Sylvie Kaufmann.
Alors, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mais je crois que c'est très très difficile d'en tirer des conclusions 5 mois à l'avance, parce qu'on est quand même dans un climat politique et électoral qui est tellement volatile, et on a eu tellement de surprises ces derniers mois que je crois que nous ne sommes pas du tout au bout de nos surprises. Alors, il y a une lecture simple et une lecture compliquée de ce qui s'est passé ces derniers temps pour le Front National. La lecture simple, en effet, c'est que l'effet Brexit plus l'effet Trump plus l'effet Fillon, c'est un triple choc d'une certaine manière qui est assez négatif pour Marine Le Pen. Et d'ailleurs, on le voit dans les premiers sondages déjà, puisque si on prend l'enquête mensuelle de Cevipof Ipsos Le Monde qu'on a publiée cette semaine, elle perd sa première place. Ça y est, François Fillon est passé devant avec, suivant les hypothèses, entre 26 et 29%. Elle descend donc à 24% de manière assez stable, enfin stable par rapport quelles que soient les autres candidatures, mais c'est une perte de 4-5 points, je crois. Et puis, il y a l'effet Macron qui commence à se produire, donc Emmanuel Macron qui fait une percée et qui brouille le jeu. Donc là, on a pas mal de paramètres qui peuvent évoluer de manière très, très importante d'ici avril. Par ailleurs, Marine Le Pen n'a pas commencé sa campagne. Elle a opéré cette retraite stratégique, je trouve, assez efficace. Si, sur le plan... elle n'a pas pris position sur des choses de fond, sur des dossiers de fond. Elle ne veut pas reproduire l'erreur de 2012 où elle était partie beaucoup trop tôt en campagne et du coup, elle a prêté le flanc à des critiques très précises sur son programme. Là, ça va se passer en février. Je crois que c'est les 4-5 février. Le Front National prévoit une grande convention à Lyon où elle présentera les grandes lignes de son projet pour pouvoir se concentrer vraiment dans une campagne courte et dense. Je pense que là, il y aura un effet dans les sondages et dans le débat. On verra où en seront les autres. Évidemment, elle saura qui est son adversaire principal à gauche. Enfin, principal, c'est vrai qu'il y aura aussi Mélenchon. Mais le panorama sera un tout petit peu plus clair. Et puis, il y a toutes les inconnues auxquelles il va falloir faire face. L'économie, par exemple, Trump, en avril, l'administration Trump sera déjà en place. Peut-être que ce blitzkrieg économique qu'il a en projet va commencer à produire déjà des effets. On verra peut-être. Alors, en effet, le Brexit, ça peut continuer à barboter allègrement avec des négociations qui se présentent mal, qui s'avèrent interminables. On peut aussi s'apercevoir que finalement, l'effet économique n'est pas négatif. Et ça peut donner des arguments qui peuvent être utilisés par le Front National. Il y a l'inconnu des réfugiés, de l'immigration, il peut se passer plein de choses. Et puis, il y a la rivalité Philippot et Marion Maréchal, dont vous avez tous parlé, et qui est un facteur important, vraiment important dans ce parti. Alors là, Marine Le Pen dit ce sont des bisbilles, c'est très bien. Dans son entourage, on dit c'est très bien que ça se passe maintenant parce que comme ça, on évacue ces problèmes-là et puis après, on sera tous unis au moment où il faut aller au combat. Là, je crois que ça, c'est un clivage qui va ressurgir régulièrement parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est l'après Marine Le Pen. Et si elle n'a pas, évidemment, si elle n'est pas élue cette année, elle ne va pas se représenter une troisième fois. Donc on a là... Philippot et Marion Maréchal qui jouent déjà le coup d'après, celui de 2022, et qui veulent chacun emporter le morceau.
Oui, quelqu'un m'a fait remarquer un jour que dans 5 élections présidentielles, Marion Maréchal Le Pen serait encore une jeune candidate.
Absolument.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois qu'on est, on a effectivement une analyse assez convergente les uns et les autres, enfin les unes et l'autre,
et... Ça va bien se passer.
Salutations cette émission. Ce que je crois que si on raisonne sur la situation antérieure, on avait une république bipolaire divisée en quatre. On avait l'extrême droite, la droite de gouvernement, la gauche de gouvernement, l'extrême gauche. Bon, avec chaque fois. Et ce qui était la tendance, asymptotiquement, ce système tendait vers un deuxième tour, Le Pen-Mélenchon. Parce que la droite de gouvernement était divisée, effondrée. Si c'était Sarkozy, il y aurait eu Bayrou, il y aurait eu une espèce de décomposition. Et la gauche était effectivement en voie de décomposition. Et il y a deux électorats solides. L'électorat du Front National autour de 25% et l'électorat de la gauche contestataire révolutionnaire autour de 15%. Donc on avait un risque d'explosion. Ce qui s'est passé, et il faut saluer les primaires, qui, de ce point de vue-là, notamment les primaires à droite, mais les primaires à gauche auraient pu jouer si les acteurs étaient à la hauteur de ce qu'on leur demande. Les primaires ont permis quand même de faire une grande partie du travail. Vous l'avez dit, la rénovation, elle est largement faite. On a éliminé les deux leaders principaux de la droite qui occupaient le terrain depuis une vingtaine d'années. D'abord, évidemment, Sarkozy, puis dans une moindre mesure, mais enfin quand même un rôle très important depuis 20 ans, Alain Juppé. À gauche, c'est quand même l'onde de choc de la primaire de droite qui, avec l'onde de choc du bouquin aussi, qui a été quand même terrifiante, qui a conduit François Hollande à se retirer. Donc, je voyais Philippot riait jaune en disant « le travail révolutionnaire est fait, mais il faut quand même continuer ». Mais il a été fait sans lui. Il a été fait sans le Front National. L'évolution s'est faite. Donc on a manifestement la reconstitution, avec toutes les limites que vous avez dites, notamment Nicole, d'un camp de droite qui est très structuré, très solide et qui représente les trois droites de René Raymond, libéral, ordre moral et nationalisme un peu souverainiste. Bon, donc c'est en ordre. Et effectivement, sanction immédiate, je ne dis pas que ça durera, Fillon refait la course en tête par rapport à Marine Le Pen. À gauche, le problème est posé et traditionnellement la gauche a toujours eu des difficultés à faire son unité. Est-ce qu'on est dans la situation, car quand on regarde l'histoire de la gauche depuis 1945, on s'aperçoit que il y a une division profonde entre la gauche et l'extrême gauche qui les a empêchés de gouverner ensemble, sauf pendant la brève période du mitrandisme historique. C'est-à-dire, là, il y a eu, dans les années 70, il y a eu, à travers le programme commun, d'ailleurs, il y a eu un effondrement des bases idéologiques, sociologiques, surtout sociologiques de la gauche, communiste, la disparition de la classe ouvrière, la montée des classes moyennes, et ça a conduit au pouvoir du Parti socialiste. Depuis une quinzaine d'années, la mondialisation, l'extrême-gauche est reconstituée. Et là, je crois vraiment qu'il faut absolument que la gauche, je crois que c'est essentiel sur le plan républicain, la gauche, l'espace compris entre ces deux, entre Fillon et Mélenchon, retrouve une unité. Alors, Macron a décidé de ne pas y aller. Il a manifestement fait un bon succès lors de son meeting il y a une semaine. Mais est-ce que véritablement, la gauche peut se permettre d'avoir un candidat officiel issu de la primaire socialiste et un candidat sauvage populaire, mais Macron. Je crois que là, il y a quelque chose qui ne passe pas. Il faut résoudre ça.
Alors, sur justement, je voulais me corriger si j'ai paru trop déterministe que il y aura pas de succès Le Pen, mais je pense que réellement ce changement qui s'était effectué dans les têtes qui vont être présentes et peu importe qui sortira de la primaire socialiste, on sait déjà que il y a Fillon, il y a Macron, donc c'est déjà des nouvelles têtes. Et ce contexte-là, je pense, il n'est pas porteur pour un parti comme le Front National, qui joue quand même énormément sur ce réflexe. Tous ceux qui sont là, on les a trop vus et on doit les sortir. Et je veux pour preuve le phénomène un peu inverse en Allemagne, où on sort d'une grande coalition et où on a une chancelière qui est déjà au pouvoir depuis 15 ans. Et du coup, ça renforce énormément ce nouveau venu, l'Alternative pour Deutschland, l'AfD, qui justement incarne cette critique du système en quelque sorte. Mais je suis assez optimiste que ce changement que personne n'avait vu venir, en tous les cas pas moi, en France, avec le succès de Fillon, ça va quand même redynamiser, et on le sent déjà, le débat politique est comme réveillé à nouveau.
C'est lui, Kaufmann.
Oui, rapidement, je trouve que ce que ça montre aussi, c'est la faiblesse du socle idéologique du Front National. Toute cette confusion, on voit bien que, en réalité, au-delà du souverainisme et du sentiment anti-immigration ou anti-islam, la peur du soi-disant grand remplacement, ils ont du mal à se regrouper vraiment sur quelque chose de très construit, de très fort. Et je crois que c'est ce qui a fait peur, justement, à Marion Maréchal Le Pen, c'est que dans le Vaucluse, l'un d'entre vous parlez de Béziers tout à l'heure, mais aussi dans le Vaucluse, qui est le pays de Marion Maréchal Le Pen, Fillon est arrivé très largement en tête à la primaire. Mmh. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'il faut revenir à ses valeurs, il faut se battre aussi sur ses valeurs conservatrices et culturelles, entre guillemets. Je crois que c'est comme ça qu'il faut interpréter le petit accro de Marine Le Pen à sa stratégie de dédiabolisation, avec cette proposition absurde, même plus qu'absurde, grave, de déscolarisation des enfants des sans-papiers.
La machine à faire des djihadistes.
Oui, absolument. Mmh. C'est une concession, finalement, à sa nièce.
Oui.
Et ça montre que sa stratégie est à double tranchant et ne marche pas vraiment.
Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à Donald Trump, tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur, puisque Donald Trump a choisi les principaux membres de sa future administration. Il a confié le secrétariat d'État au patron du groupe pétrolier ExxonMobil et proche de Vladimir Poutine, Rex Tillerson, nommé le mania du fast-food Andrew Pusder au poste de secrétaire au travail, le climato-sceptique Scott Pruitt à la tête de l'Agence de la protection de l'environnement, l'opposant à l'Obamacare Tom Price à la santé, Ben Carson, son ancien rival dans la course à l'investiture républicaine au secrétariat au logement et aux affaires sociales, et l'ancien banquier de Goldman Sachs, Stephen Mnuchin, au secrétariat au Trésor. Le président élu a placé plusieurs militaires à des postes clés. Le général John Kelly prend la tête de la sécurité intérieure. L'ancien marine James Mattis est nommé secrétaire à la défense. Et le général Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale. Donald Trump a annoncé dans un tweet du 2 décembre s'être entretenu par téléphone avec la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen. Cette conversation, la première depuis des décennies entre un président américain et un dirigeant taïwanais, a provoqué la colère de Pékin, qui considère cette île comme partie intégrante de son territoire. Le futur locataire de la Maison Blanche s'est exprimé sur cet épisode à l'occasion d'un entretien sur la chaîne Fox News. Il a déclaré ne pas voir en quoi les États-Unis devraient être liés par la politique d'une seule Chine, à moins de conclure un accord avec la Chine sur d'autres choses, dont le commerce, et il a jugé que le principe d'une seule Chine n'engageait que Pékin. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a réagi en déclarant que si Donald Trump essaie de saboter la politique d'une Chine unique ou de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Chine, au final, il soulèvera un rocher qui lui écrasera les pieds. Sur cette question, Nicole Niesoto.
Oui, quand on regarde vers les États-Unis, pardonnez-moi si j'ai une expression un peu familière, mais plus ça va mal. Moi, je suis frappée qu'au regard des nominations et des déclarations à la fois du candidat et du président élu Trump, je suis frappée par un sentiment croissant d'inquiétude et voire d'effroi qui se répand également dans toute l'Europe. Alors, Donald Trump a entrepris une politique de rupture radicale avec le mainstream de la politique étrangère américaine et avec la méthode même de la puissance américaine. Alors, je reprends rapidement sur la liste des ruptures. On peut aller très très vite, mais l'Iran, il remet en cause le deal permettant de stopper la prolifération nucléaire iranienne acquis en juillet 2015. Sur la Russie, il veut refaire un reset avec la Russie, mais sur la base d'une admiration pour son ami Poutine. Sur le climat, c'est évidemment un climato-sceptique, et au moins deux de ses nominations, Rex Tillerson au secrétariat d'État et Scott Pruitt à l'Agence de l'environnement, sont des climato-sceptiques avérés. Une remise en cause du libre-échange avec la volonté de remettre des droits de douane de 45% sur les exportations chinoises, des déclarations sur l'OMC comme étant un désastre et peut-être les États-Unis devraient s'en retirer. Et sur la Chine, vous l'avez dit, les déclarations un peu inquiétantes sur le fait qu'ils ne seraient pas tenus par la politique de la Chine unique. Donc, quand on prend la liste des sujets, on est quand même frappé par des déclarations qui se veulent en rupture avec la politique étrangère américaine, qu'elle soit démocrate ou républicaine. Mais surtout, plus important, je crois, il y a une rupture avec la méthode de la politique étrangère. Kissinger disait, l'Amérique ne peut pas avoir une politique du coup par coup. L'Amérique est obligée d'avoir une politique de grand dessein, un peu ce que De Gaulle essayait de faire aussi en France. Et effectivement, on pourrait résumer la politique étrangère de tous les présidents depuis en tout cas la fin de la guerre froide. Bush père, c'était le nouvel ordre mondial. Bush fils, c'était la guerre au terrorisme et le regime change. Obama, c'était la réconciliation des civilisations et le pivot asiatique. On pourrait comme ça faire la liste. Reagan, pardon, je l'ai oublié, mais c'était défaire l'empire du mal. Or là, avec Trump, évidemment, il n'y a pas de grand dessein. Et M. Trump va faire de la politique étrangère comme un businessman, c'est-à-dire il va faire des deals. C'est un deal maker et donc il va traiter les sujets selon le plus grand intérêt de ses actionnaires, sans que l'on sache très bien si ses actionnaires sont les États-Unis ou le lobby pétrolier. Parce que je ne voudrais pas être totalement paranoïaque, mais enfin quand même, Rex Tillerson, donc le patron d'Exxon, reprend une tradition d'ailleurs américaine où le lobby pétrolier est très fort dans la diplomatie. C'était le cas de Bush père, de Bush fils, et on a vu que la guerre en Irak quand même a donné une catastrophe planétaire dont on paye encore aujourd'hui les frais. Mais on a là, sur les deux grandes orientations, les deux grandes ruptures de la politique étrangère annoncée par Trump, c'est-à-dire la confrontation avec la Chine et la remise en cause de l'Iran, on peut y voir des rationalités purement liées au marché du pétrole. L'industrie chinoise, la Chinese National Petroleum, est la troisième industrie pétrolière dans le monde, alors qu'Exxon n'est seulement que sixième. Et quant à l'Iran, il est le quatrième sur les réserves de pétrole mondial, les réserves avérées de pétrole mondial, et il est évident que son retour sur leur marché avec une normalisation de l'Iran serait un coup très dur pour l'Arabie Saoudite et ses alliés américains. Et donc, on voit qu'on a là une politique de deal qui ne serait pas forcément en phase avec, la tradition de la puissance américaine. Et je termine en disant, sur les fondements même de la puissance américaine, le président élu les remet en cause simultanément. Un, le libre-échange, avec toute sa volonté, tous ses discours sur le retour à un protectionnisme éventuel. Deux, la suprématie stratégique. Alors, il ne remet pas en cause, il va augmenter les dépenses militaires, mais il remet en cause les alliances, l'OTAN et le Japon, par exemple, et la Corée du Sud, alors que ce sont les fondements de la suprématie stratégique américaine. Et troisième fondement, l'incarnation de la liberté, et ça, il y renonce.
Michaela Wiegel.
Oui, alors effectivement, on nous avait dit, une fois élu, il sera beaucoup plus raisonnable, il allait s'entourer des gens, et on a effectivement maintenant les nominations, et on voit qu'il n'y en a rien. Et je m'arrêterai très brièvement au cas de Rex Tillerson, parce que ça va être quand même pour les Européens, l'homme de Washington. Et effectivement, c'est très inquiétant, puisque en mai, avec un président dealmaker, comme Nicole vient si bien le décrire, on met un homme dont la plus grande capacité, c'est justement faire des deals. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a aucun respect du principe de complémentarité. Il aurait fallu, je pense, un diplomate chevronné, quelqu'un en tous les cas qui soit en complémentarité. C'est pas encore fait, la nomination. J'ai regardé. Il suffit de 3 voix républicaines qui manquent au vote au Sénat. Et ça tombe, supposé, bien sûr, que tous les démocrates votent contre. Et on a entendu John McCain, comme le sénateur de Floride, Mario Rubio, qui ont déjà commencé à attaquer, notamment sur... sur ces conflits d'intérêts qui résultent bien sûr du fait que un CEO d'une entreprise pétrolière comme Exxon soit à la tête de la diplomatie américaine. Et un mot, ce qui m'a beaucoup surpris, ou pas surpris probablement, mais en tous les cas, ce qui m'a inquiété, c'est Condoleezza Rice, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État, a fait les louanges de Tillerson sans mentionner d'un mot ses liens commerciaux, puisqu'elle a fondé un cabinet de conseil avec d'ailleurs l'ancien ministre de Défense, Robert Gates, qui a servi sous Bush comme sous Obama et qui dépendent des commandes de Exxon. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a une partie du lobby pétrolier au sein même du Parti républicain qui se réconcilie en quelque sorte avec Trump à travers cette nomination. Un dernier mot, cette russofolie
folie aussi.
Oui, oui. Affichée risque quand même aussi de rentrer en conflit avec ce qui est prévu sur l'Iran. Donc c'est là aussi, on se dit, ce serait bien qu'il est conseillé par un diplomate. Pas des diplomates chevronnés. Alors, je ne sais pas, dans le fonctionnement du secrétariat d'État aux États-Unis, s'il y a suffisamment de checks and balances pour justement empêcher d'aller vers des crises diplomatiques.
Sylvie Kaufmann.
Oui, alors à la méthode Trump, j'ajouterais une autre dimension qui est celle du manque de préparation. Et c'est peut-être quelque chose qui devrait nous inquiéter tout autant que le reste, même si, comme tout le monde, j'essaye de penser contre moi-même depuis le 8 novembre et d'être raisonnable et de me dire mais il y a probablement, ça va s'arranger, ça va bien se passer. Pour l'instant, ça reste un exercice très très difficile de penser contre soi-même sur Donald Trump. Son manque de préparation, il l'a confirmé ces derniers jours dans un discours dans sa tournée de remerciements. Il a reconnu devant son audience, devant ses partisans, qu'il pensait qu'il allait perdre, qu'il a la nuit même de l'élection, qu'il était convaincu qu'il avait perdu l'élection et que c'est sa femme, Wonderful Melania, qu'il a fait acclamer, qui lui a dit « Mais non, chérie, tu as gagné, je suis sûre que tu as gagné, tu vas gagner. » Et Melania avait raison. Et donc,
on dirait le titre d'une pièce de Feydeau.
Voilà. Malheureusement, ça n'est pas du théâtre.
C'est lui qui avait raison en termes de nombre de voix.
Et en termes de choix de sa troisième ou quatrième femme, certainement.
Oui.
mais bon, ça n'est pas du théâtre, c'est de la réalité, donc revenons-y. Et on voit que dans la composition de son équipe, il a dû improviser énormément. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Ce manque de préparation aussi fait que... il n'a pas pris la discipline, par exemple, de profiter des briefings que tous les services de l'administration lui proposent, mais il dit « je suis assez intelligent, je n'en ai pas besoin ». Et tout ça conduit déjà à des gros problèmes, comme on le voit sur la Russie. Parce que j'ajouterai à la liste des transgressions qu'a présenté Nicole, la liste des renversements de table, enfin bon, il y a aussi la Russie, puisque on voit qu'il veut changer d'orientation vis-à-vis de la Russie. Il veut débloquer, c'est vrai que la situation, les relations entre la Russie et les États-Unis sont dans l'impasse. Il veut rouvrir le dialogue, pourquoi pas ? C'est une approche qui se défend. Moi, personnellement, le fait que Rex Tillerson ait été décoré par Vladimir Poutine, et je ne suis pas suspecte de sympathie excessive pour Vladimir Poutine, mais...
Ni pour les décorations
Je fais attention maintenant. Ça n'est pas en soi quelque chose de rédhibitoire. Je pense que le patron d'une grande compagnie pétrolière va probablement se trouver à un moment susceptible d'être décoré par le président russe. Mais il faut savoir où on va. Et là, on a en ce moment quelque chose qui est en train de se passer aux États-Unis, qui est très grave, qui est les services de renseignement et même le président Obama maintenant constate qu'il y a eu très probablement des intrusions des services secrets russes dans la campagne électorale américaine de manière vraiment importante et pour dont le but n'était pas forcément, alors ça n'est pas prouvé que le but était de favoriser l'élection de Donald Trump par rapport à celle d'Hillary Clinton, je pense que c'est encore plus grave, le but était de déstabiliser le processus démocratique. C'est une accusation très grave. Si elle se confirme, et vraiment je crois que beaucoup de gens sont en train de travailler là-dessus, le New York Times a fait une enquête vraiment sérieuse et intéressante. Je crois que la CIA a rendu ses conclusions, d'autres services de renseignement évidemment travaille là-dessus. Le président Obama dit « nous prendrons des mesures ». Donc on va en savoir plus, j'espère. Mais s'il s'avère que tout ça s'est bien produit, l'ouverture de Donald Trump sur la Russie risque d'être quand même compliquée de manière assez singulière.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, on peut aborder les premiers pas de l'administration, de la pré-administration Trump de plusieurs manières. Je crois d'abord que sur le plan des équilibres globaux, là, il y a une cohérence indiscutable. Trump est un produit de la plutocratie populiste et du Parti républicain. Parti républicain qu'il a détruit, mais dont il doit tenir compte puisqu'il ne peut pas se passer d'un soutien républicain au Congrès. Et là, on voit bien que les équipes, tout ce que vous avez dit sur les nominations, relève très clairement de ce mélange. D'un côté, on met des plutocrates, des milliardaires, qui sont d'ailleurs sans doute assez intelligents, mais qui sont très cyniques, très gouvernés uniquement par le souci de leur entreprise ou leur souci financier propre. Il y a une accumulation de fric à la tête du gouvernement américain qui est absolument sans aucune sorte de précédent. Et puis d'autre part, une ligne solidement et péniblement conservatrice sur toutes les questions de société, toutes les questions de mœurs, sur l'Obamacare, sur la morale, sur le climat, qui est quand même aussi... Tout ça va dans le même sens, et ça va là dans le sens du parti. Alors c'est quand même une synthèse qui, pour des gens comme nous, en Europe, n'est pas ce qui nous satisfait. C'est une synthèse, je le signale, anti-libéral. Les Américains, au moins, ont un mérite, c'est qu'ils considèrent que les libéraux, c'est des gens de gauche. C'est quand même quelque chose que les Français devraient un peu méditer. Bon, donc là, on voit bien ce que c'est qu'une administration anti-libérale, à la fois plutocratique et populiste. Donc cet équilibre-là. Mais deuxièmement, je crois qu'il faut... Ce qui est caractéristique, c'est les problèmes de méthode. Alors, vous avez décrit la méthode, à travers ses tweets, et je crois qu'on peut la caractériser de deux manières. Atomisation complète des prises de position, c'est-à-dire aucun concept global, aucun concept fédérateur, des initiatives ponctuelles généralement choquantes, type télé-réalité, House of Cards, etc. Chaque fois, ça fait un épisode de feuilleton, alors Taïwan ou des choses comme ça, ça marche très bien, on lance et on fait turbuler et on regarde ce qui se passe. Donc, d'une part, une atomisation totale et d'autre part, un court-termisme. Personne ne sait, sur la base des premières initiatives de Trump, vers quoi il va aller, vers quel type de relation avec la Chine, vers quel type de relation avec la Russie, vers quel type de relation avec l'Europe, comment va s'organiser la sécurité. On n'a aucune indication. Donc, et alors là, je crois qu'il faut quand même se faire référence à ce livre très ancien des années 70 de William Shawcross, qui était sur la politique d'Asie du Sud-Est de Nixon, une tragédie sans importance, et où William Shawcross avait montré que Nixon appliquait ce qu'il appelait la stratégie du fou. Et la stratégie du fou, c'est quelque chose de très intéressant. C'est qu'un homme politique, Hitler l'avait appliqué en son temps, adopte une attitude qui est irrationnelle par rapport à ce qu'on attend logiquement de sa situation. Et comme il est irrationnel, tout le monde est obligé de s'adapter à sa logique et de jouer dans son camp. C'est très typique de l'opération Taïwan. C'est une opération totalement irrationnelle. Troisième remarque, si vous permettez, Philippe. Je crois que on parle de conflit d'intérêts. On dit il y a des conflits d'intérêts. Moi, je crois qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts puisqu'il n'y a pas d'intérêt général. Je veux dire, il n'y a que des intérêts particuliers. La notion de conflit entre des intérêts particuliers et un intérêt général n'existe pas. Ce qui caractérise la pré-administration Trump, c'est un chaos d'intérêts particuliers entre lesquels il aura beaucoup de mal à arbitrer.
Nicole Nézotto.
Oui, juste un point. On attendait la modération peut-être par les nominations. On ne l'a pas eu. On a eu au contraire une radicalisation. Est-ce qu'on pourrait avoir une modération par le principe de réalité ? Autrement dit, est-ce qu'il peut faire ce qu'il annonce? Alors, sur le libre-échange, je crois que ce sera très difficile. Parce que augmenter les droits de douane de 45%, ça veut dire que le prix d'un iPhone serait multiplié par 10 et que donc il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui lui diront d'arrêter ce délire. Donc ça, je crois que c'est impossible. Sur le climat, en revanche, c'est très faisable. Il peut le faire, il n'a aucune difficulté à le faire. Il a nommé à la tête d'un certain du département d'État et des agences des climato-sceptiques. Il va, je crois, remettre en cause l'adhésion des États-Unis à la COP21. Donc là, il y aura une vraie rupture.
La Chine, quand même, là-dedans.
La Chine aussi.
Non, mais la Chine, oui. Sur l'environnement, c'est ça l'enjeu.
Sur la Russie, l'alliance avec la Russie, je crois qu'il va le faire et il va faire une espèce de grand marchandage avec la Russie, dont le prix à payer sera la zone grise européenne, c'est-à-dire tout ce qui est entre nous, Union européenne et la Russie, et l'Ukraine, peut-être un deal, disons, russe, je vous laisse tout ça, en échange, vous m'aidez sur la Chine, par exemple, quelque chose comme ça, donc une espèce de grand marchandage avec la Russie, je crois qu'il peut le faire. Et quatrièmement, sur la Chine, est-ce qu'il peut aller à une politique de vraie confrontation avec la Chine? Là, je ne crois pas. Je crois que c'est comme le libre-échange, il y a deux points sur lesquels il aura du mal à mettre en œuvre ce programme, le libre-échange et la Chine. La Chine, pourquoi? Parce que la Chine possède 7% de la dette, du déficit de la dette extérieure américaine, 3000 milliards de dollars, et plus Trump va faire sa politique d'investissement, qui d'ailleurs fait monter la bourse américaine, plus il va aller loin dans sa politique d'investissement et de construction d'infrastructures, plus il va s'endetter, plus la Chine va acheter de la dette américaine. Donc, le principe de réalité, je crois, va jouer sur deux points, le libre-échange et la Chine, mais en revanche, je crois que Trump va déstabiliser complètement la relation avec la Russie et le climat.
Sylvie Kaufmann.
Très rapidement, Jean-Louis dit qu'il n'y a pas d'intérêt général. Il y a un intérêt, c'est celui de America First. Et on voit bien que la seule chose vraiment cohérente qui guide pour l'instant sa politique, c'est la politique économique. Oui, Donald First aussi. Et cette composition de son équipe, ce sont donc des hommes d'affaires où il privilégie, avec lesquels il privilégie la réussite individuelle. Et c'est tout ça, c'est dans ce but-là. Mais donc le maître mot de cette administration, c'est transaction, hein, deal, comme vous avez dit, c'est un deal maker. Mais pour une transaction, comme disent les Américains, pour danser le tango, il faut être deux. Et pour faire une transaction, il faut avoir aussi des deal makers en face de soi. Et je suis pas sûre qu'avec l'équipe qu'il a en face de lui, c'est-à-dire Poutine, Xi Jinping, l'Ayatollah Khamenei, je suis pas sûre qu'il va trouver des gens. Je ne parle pas des Européens qui sont totalement effarés et qui attendent de voir ce qui va se passer parce qu'on est quand même au milieu de tout ça et on en subira les conséquences. Mais je ne suis pas sûre qu'il va trouver vraiment les deal makers qu'il espère, qu'il a eu jusqu'ici l'habitude de trouver en face de lui.
Je vous remercie. L'heure est venue de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai avec deux recommandations. L'une pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à ceux qu'on aime pour les fêtes, qui est le coffret édité par Lina et consacré au frère Jacques. Le dernier des frères Jacques, Paul Touraine, est mort il y a quelques semaines. Et ce coffret est enfin une occasion de pouvoir, pour ceux qui les connaissaient, pour ceux qui pourraient les découvrir, le talent, l'imagination, l'originalité des frères Jacques, qui combinent à la fois des éléments de récital très importants, très nombreux, et en même temps des documents, des interviews, etc. Et l'autre, pour la réflexion, est un livre d'Olivier Rasemont qui s'intitule « Comment la France a tué ses villes » et qui est édité aux éditions de la rue de l'Échiquier, qui est une réflexion tout à fait originale sur la manière dont les villes moyennes ont été progressivement délaissées, en même temps qu'elles étaient phagocytées par le commerce de type grande surface. Et Olivier Rasemont soutient, je crois non sans raison, que c'est là un des problèmes les plus importants de l'aménagement du territoire. Nicole Niesoto.
Oui, alors, au moment où Alep fait malheureusement la une, moi je voudrais recommander l'ouvrage de Niroz Malek, qui s'appelle « Le promeneur d'Alep », paru aux éditions du Serpent à plumes il y a un an à peu près, en avril 2015. Niroz Malek est un écrivain syrien qui est né à Alep, qui vit à Alep, qui continue de vivre à Alep sous les bombes. Il n'est pas parti. Il a eu un prix d'ailleurs littéraire en juin dernier, le prix Les Lorientales. Et c'est le roman d'une ville sous les bombes. C'est un roman par petites touches, quelques impressions. L'écrivain reste confiné dans son appartement. Il entend des choses, des bombardements. Il écoute parfois des amis qui lui parlent de fenêtre à fenêtre. fenêtre. Parfois, il sort prendre un café quand il y a une petite accalmie. Et c'est un roman absolument extraordinaire. Enfin, c'est plutôt un journal. C'est le journal d'une vie sous les bombes. C'est à la fois très bien écrit, c'est très tragique, mais c'est en même temps extrêmement résistant. Et c'est un roman que je recommande.
Sylvie Kaufmann.
Alors, comme c'est bientôt Noël, je recommande trois livres très différents. À propos de la discussion que nous avons eue au début de cette émission, Le Front National de Joël Gombin aux éditions Erol, qui est un bon livre qui fait le point et qui décrit le Front National depuis ses origines et qui fait aussi de la prospective et qui décrit aussi ce glissement de l'électorat du Front National, d'un électorat urbain dans les années 1980 et 1990, vers cette France périurbaine que décrit d'ailleurs Olivier Razemont. Deuxième livre, plus léger, Varsovie Métropole, c'est un livre illustré, c'est l'histoire illustrée de Varsovie de 1862 à nos jours, et c'est une histoire souvent tragique, mais passionnante, donc je recommande. Et dernier livre, vraiment là, c'est une somme, L'Occident vu de Russie, anthologie de la pensée russe de Karamzine à Poutine, ce sont des textes formidable, rassemblé par Michel Niqueux, qui est traduit pour la plupart, qui est professeur à l'université de Caen, avec une formidable préface de Georges Niva à l'Institut d'études slaves.
Michel Avigal.
Oui, un seul livre, mais qui en vaut au moins trois pour tous ceux comme moi qui ne désespèrent pas de comprendre la France. C'est vraiment un must. C'est le livre de Mona Ozouf, de Révolution en République, Les chemins de la France. Et je voulais mentionner très brièvement une conférence dont le discours est publié dans ce livre qu'elle a tenu à la Freie Université de Berlin en octobre 2010 sur le problème de l'identité et le cas français. Et pour moi, c'est vraiment pour tous ceux et pour la campagne électorale qui s'ouvre, qui cherchent des réponses, tout est dit dans ce discours.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je voudrais signaler le livre d'Hubert Védrine, Sauver l'Europe. Je suis en désaccord assez profond avec Hubert Védrine, qui est un esprit très brillant et qui explique bien son affaire. Je suis en désaccord profond. Je crois que Védrine surfe sur quelque chose de très juste, qui est le mécontentement profond des gens vis-à-vis de tout, et notamment vis-à-vis de la construction européenne, et qui dit à peu près, ne faudrait-il pas que les milieux politiques se décident à entendre la colère qui gronde et acceptent de se réconcilier enfin avec les peuples pour sauver avec eux le projet européen. Je trouve que on ne peut pas s'en tenir à ce discours-là. Tant qu'on ne dit pas, tant qu'on n'analyse pas de quoi est fait ce mécontentement, qu'on ne le décompose pas, qu'on ne dit pas là où ça passe, là où ça ne passe pas, et surtout, quand on ne met pas clairement l'ensemble des populations, ce que dans les primaires de droite et de gauche, d'ailleurs, ça paraît bien parti, les gens ne font pas, en leur disant, voilà, l'Europe c'est simple, est-ce que vous voulez que ça continue comme ça ? Est-ce que vous voulez aller en arrière ? Sur quoi ? Soyez précis, soyez clairement dites à quoi vous voulez renoncer autrement qu'à des fantasmes. Ou est-ce que vous voulez aller de l'avant ? De quelle manière ? Si vous voulez réorienter, quelles sont les mesures institutionnelles, les mesures géographiques que vous voulez prendre ? Tant qu'on ne fera pas atterrir le débat européen dans le réel, on surfera sur une facilité qui est le mécontentement général des gens. Et ce mécontentement, c'est certainement extrêmement gratifiant pour celui qui l'exprime, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick.
Je vous remercie. Je vous signale que la semaine prochaine sera la première des deux émissions thématiques traditionnellement de fin et de début d'année. Cette première émission nous donnera l'occasion de recevoir Jean-Marc Ovas, qui est un biographe de Victor Hugo, un grand biographe de Victor Hugo, et pour évoquer le mythe de Victor Hugo. La semaine suivante, c'est Bertrand Tavernier que nous recevrons pour parler avec lui d'un autre président des États-Unis, fortement sans doute contrasté avec l'actuel, puisqu'il s'agit d'Abraham Lincoln. Et plus précisément, nous parlerons avec Bertrand Tavernier de la figure de Lincoln telle qu'elle se transmet et telle qu'elle se décrit à travers le cinéma, et évidemment principalement le cinéma américain. Vous avez maintenant rendez-vous avec Alain Kruger, qui lui-même reçoit Antoine Cyr, l'auteur de l'histoire des actrices de l'âge d'or d'Hollywood, et ensemble ils vont parler de femmes au bord de la crise de 29. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathieu Farizier. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour cette première des deux émissions thématiques de fin et de début d'année traditionnelles consacrées à Victor Hugo.